Phil PM Paranormal.
The flying disc has been found.
El Mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Salut Christian Page.
Salut Bernard. Comme ça, t'as du sang irlandais, toi.
Mais oui. Ça te fait rire, hein?
Ouais.
Ben oui, les Farley, F-A-R-L-Y. Okay. Ben oui, du côté de ma grand-mère, elle s'appelait Angéline Farley.
Oh!
Ben oui, je te le dis, j'ai un petit peu de roux en moi. Je sais que ça te fait rire,
mais un petit farfadet qui sommeille, Antoine.
Tu te trouves drôle, je sais. Bon, ben là, il faut arrêter de rire parce qu'on va parler d'une nouvelle qui est triste.
Oui, absolument.
Le départ de Hawking, là, il nous aura marqué, Hawking.
Effectivement, il est passé dans la culture populaire. Je regardais là, cette semaine tous les médias qui parlaient, bon, en fait, à l'ensemble de la planète, on a marqué ce décès de Stephen Hawking. Mais il faut également savoir qu'il a été repris dans toutes sortes de téléséries. On l'a vu, par exemple, dans Les Simpsons. On l'a vu dans toutes sortes de séries télé. Donc, il est un personnage qui est passé dans la culture populaire et il va marquer l'histoire des sciences comme Einstein aura marqué le domaine des sciences. Donc, on n'oubliera pas Stephen Hawking. Ce qui est assez... Moi, où je voulais en parler un petit peu et glisser un mot autour de ça, parce que je sais que tu en as parlé toi-même un peu cette semaine du décès de Stephen Hawking, mais c'est vrai qu'à ce micro, il nous est arrivé à quelques fois d'évoquer Stephen Hawking. Pourquoi? Parce que, bon, bien sûr, on souligne en lui le très grand scientifique qu'il a été, mais c'est vrai que ces dernières années, certains l'avaient décrié un peu comme une espèce de sonneur d'alerte, hein, un whistleblower, parce qu'il est devenu excessivement pessimiste. Certains diront même jusqu'au point qu'il était un peu alarmiste. Et en fait, Stephen Hawking avait quatre chevals de bataille, si je puis dire, quatre chevaux de bataille, mettons-le au pluriel. Et son travail était, en fait, dans un premier temps, il dénonçait le fait qu'il avait des préoccupations environnementales très importantes. Hein? Il disait souvent, parce que lorsque l'on parle de la planète... Il disait, c'est vrai que des gens peuvent imaginer une sorte de catastrophe à l'échelle planétaire où la vie disparaîtrait, un peu comme cette chute de météorites qui avait entraîné la disparition des dinosaures il y a des dizaines de millions d'années. Mais il disait, je pense que le danger, en fait, qui nous guette le plus sur le plan de l'environnement, c'est nous-mêmes. Hein? Il disait la quantité de pollution que l'on fait. Donc, à ce niveau-là, était-il un alarmiste, un pessimiste? Je pense que son discours rejoignait un peu l'ensemble des gens à travers le monde qui ont la moindrement des préoccupations à l'échelle environnementale. Ben, c'est sûr que Stephen Hawking, sa voix faisait écho un peu à ce qui était déjà rapporté. Il avait également pris parole devant un groupe suédois, le GenPep, dans lequel il avait justement dénoncé que l'autre problème qui surveillait la communauté humaine, entre guillemets, c'est bien sûr des problèmes d'obésité, hein, et en particulier dans les pays occidentaux. On ne compte plus les gens qui souffrent d'obésité, voire même uniquement les gens qui souffrent de surpoids. Hein, j'écoutais cette semaine notre collègue Isabelle Maréchal qui a fait une émission sur justement l'obésité et le nombre de gens qui souffrent essentiellement de surpoids. On ne parle pas encore d'obésité, mais c'est énorme et les chiffres sont étonnants, presque épeurants de voir à quel degré ce taux d'obésité ou de surpoids apparaît. Et Stephen Hawking le disait souvent, il disait on ne bouge pas assez, on mange trop et on ne bouge pas assez. Donc c'était un peu, il disait, il faut que les jeunes bougent plus. Et en fait, il lançait un peu cet appel-là. Un appel également qui est un peu pressenti par la plupart de les gens de la communauté scientifique et particulièrement les gens qui s'intéressent aux problèmes de santé. Et là, où nous, on en a parlé à quelques reprises à l'émission, c'est pour ces deux dernières préoccupations. Il avait une préoccupation sur l'intelligence artificielle, mais une vision excessivement pessimiste. Hein. Il disait...
Pourquoi? Moi, je veux que tu m'expliques.
Ouais,
là,
il disait que les robots, entre autres, ou l'intelligence artificielle, quand on regarde l'évolution à laquelle se développe l'intelligence artificielle, il disait l'intelligence artificielle, les robots, entre guillemets, sont plus performants que les humains. Et ce qu'il avait peur, lui, c'est qu'éventuellement, les grandes décisions de nos sociétés soient prises par des robots. Mais en même temps, les robots, on le sait, sont souvent dénués de toute forme d'émotion. Et c'est pas forcément les humains ont évolué parce qu'il y a eu des décisions à la fois logiques, des décisions politiques, mais également des décisions émotives ont permis à l'humanité de progresser. Mais il disait, si on ne met pas de balises, en fait, à ce niveau-là, on pourrait presque dire qu'il était alarmiste. Il disait, si on ne met pas des balises, et notamment si on ne met pas des balises, aller sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les milieux militaires. Lui, il envisageait la fin de la race humaine dans une période aussi courte qu'un siècle. Hein, il dit, dans un siècle, si on ne fait pas quelque chose, les robots nous auront éliminés ou nous aurons rétrogradé au deuxième rang. La race qui va gouverner le monde ne sera plus les humains, mais le robot.
Alors, il parlait donc, comme ça, là.
Oui, voilà. Donc, on avait un peu une impression que là, son discours rejoignait
ouais, là,
un peu...
ça devient catastrophiste.
Oui, l'idée un peu du Terminator, hein, ce film de...
Ben oui.
Tu sais, qui montrait la guerre entre les robots et les humains. Donc, là-dessus, c'est vrai qu'il était un peu alarmiste. Et l'autre, le quatrième point, et c'est probablement la raison pour laquelle on en a le plus souvent parlé à ce micro, c'est que c'est vrai que j'évoque souvent, et encore aujourd'hui, cette semaine, dans les nouvelles, il y avait cette histoire de communication, de messages radio extraterrestres. Et Stephen Hawking était très impliqué là-dedans. Il faut le souligner, il était l'un des ambassadeurs du projet Breakthrough Listen, un projet qui a été mis en place il y a 2 ou 3 ans, qui est prévu pour durer 10 ans, au coût de 100 millions de dollars, et qui est financé par un magnat russe du nom de Yuri Milner. Et leur projet, c'est d'écouter l'espace. On le sait qu'on le fait depuis les années 1960. Écouter l'espace dans l'espoir de capter un signal radio qui pourrait être d'origine extraterrestre. Et là-dessus, Stephen Hawking, bien sûr, disait « Oui, si on découvre d'autres civilisations dans le cosmos, ce serait un pas extraordinaire pour l'humanité d'apprendre. On répondrait à cette grande question existentielle. Sommes-nous seuls? Mm-hmm. » Mais dans un deuxième temps, on se dit, si on écoute et on entend, on pourrait être tenté de parler à notre tour, de communiquer. Et c'est là que Stephen Hawking avait une levée de bouclier. Il était très réservé là-dessus. Il disait, attention, on ignore quelles pourraient être les intentions de ces civilisations extraterrestres. Et si on signale notre présence, ces gens-là pourraient bien débarquer chez nous avec des intentions belliqueuses. Et il évoquait souvent le scénario de ces contacts qu'il y a eu, par exemple, à la Renaissance, lorsque les sociétés européennes ont débarqué en Amérique. Ça s'est généralement mal passé pour les sociétés autochtones qui ont été, finalement, il y a eu des génocides énormes.
Ont été rayés de la carte.
Par ces groupes beaucoup plus évolués. Et Stephen Hawking disait, attention, peut-être serons-nous un peu les colonisés si venait qu'à débarquer une civilisation d'outre-espace. Donc, à ce niveau-là, il était effectivement très pessimiste. Il disait, écoutons l'espace, si on trouve la preuve qu'il y a une civilisation extraterrestre, tant mieux, on répondra à une question existentielle, mais avant de signaler notre présence, restons excessivement prudents.
En tout cas... Il aura contribué.
Ah oui, absolument. Il aurait été un des grands scientifiques qui a remarqué notre époque.
Il n'a pas perdu son temps.
Non.
D'ailleurs, parlant de signaux radio extraterrestres, tu as fait brièvement, référence. Là, on va s'arrêter et tu vas nous en parler tout de suite après la pause.
Absolument.
Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PM au réseau Cogeco.
Donc, de retour avec Christian Page, parle-nous donc de ces signaux radio extraterrestres, peut-être?
Oui, peut-être extraterrestres. En fait, c'est une information qui nous est arrivée, qui a été publiée d'abord dans la presse australienne et qui nous arrive ensuite. Ce sont des chercheurs, en fait, de Sydney qui auraient capté des signaux radio. En fait, ils en ont capté à 3 reprises au début du mois. Les premiers, j'ai dit Sydney, pardon, c'est Melbourne. C'est les premiers 7 et 11 mars derniers. Ils ont capté des signaux radio. Et ces signaux radio, Bernard, écoute, assis-toi bien, nous proviendraient d'une étoile située à 3 milliards d'années-lumière dans la constellation du Cocher. Donc, ici, on est très loin. Et quand on parle de signaux radio, il faut dire que ce sont des signaux très particuliers. Les astrophysiciens les appellent des sursauts de radio électrique, des fast radio bursts, hein, pour utiliser l'expression anglophone. Et ce sont des signaux radio qui se caractérisent par un champ magnétique extrêmement puissant. Donc, ici, on n'est pas dans une découverte nouvelle. Il faut dire que ces signaux radio avaient déjà été captés en 2012 par le radiotélescope d'Arecibo, qui se trouve dans l'île de Porto Rico. Ils ont été entendus une nouvelle fois en 2015, hein, encore une fois par le radiotélescope d'Arecibo. On reconnaissait qu'il y avait une particularité à ces signaux-là.
Est-ce qu'ils provenaient toujours du même endroit?
Oui, toujours du même endroit. Il faut dire que ces signaux ne sont... Là, on sait que ceux dont je te parle aujourd'hui proviennent de la constellation du Cocher. Mais on a capté à peu près 500 signaux semblables à travers le cosmos jusqu'à maintenant. Ce qui caractérise les signaux dont je te parle aujourd'hui, c'est qu'ils sont beaucoup plus puissants que qu'est-ce que l'on n'a jamais enregistré auparavant. Ils ont également une régularité tout à fait extraordinaire et qu'on ne s'explique pas. Parce que tous les autres corps semblables qui avaient été détectés, les signaux étaient irréguliers, on avait quand même des explications, on avait, disons, des hypothèses qui permettaient d'expliquer la nature naturelle de ces phénomènes. Alors que les signaux dont je te parle, qui proviennent d'un endroit tout à fait exotique, appelé FRB 121102, hein, c'est très exotique comme nom, ces signaux-là sont si étranges, si inhabituels, si réguliers, que là, on se gratte la tête, mais qu'est-ce qui peut bien provoquer ça dans le cosmos? Et là, en ce moment, les scientifiques proposent l'hypothèse, peut-être, d'un trou noir qui serait très particulier, dont on n'aurait jamais eu connaissance de l'existence, ou encore, peut-être, de signaux radio qui auraient été augmentés pour être mieux contrôlés et mieux dirigés. Et là, bien sûr, on parlerait d'une civilisation d'origine extraterrestre.
Oh, oh, oh!
Alors voilà, c'était notre nouvelle
histoire. Est-ce qu'on sera fixé là-dessus un moment donné?
Ben, disons, si on reste dans l'optimisme, les scientifiques disent que d'ici un siècle, on devrait avoir la preuve ultime s'il y a des signaux radio extraterrestres. Mais là, pour la première fois, on a... pas la première fois, ça fait à quelques reprises qu'on a des signaux. Jusqu'à maintenant, tous ces signaux-là ont été expliqués de manière naturelle, sans faire appel à des extraterrestres. Alors, ben voilà, nos scientifiques
là,
auront...
Là, il y a une hypothèse.
Voilà, nos scientifiques auront, aucun doute, pour les mois à venir, quelque chose sur quoi plancher.
Bon, là, il faut parler un petit peu des ovnis là, au-dessus de l'Arizona. Tu as un extrait audio à nous faire entendre. Oui. Et comme il nous reste seulement 3 minutes, il faut vraiment que tu y ailles à l'essentiel.
J'y vais vite. Je sais que là-dessus, je vais te faire plaisir. Tu aimes bien ça, ces communications radio. Alors écoute, on le sait, depuis quelques semaines, la FAA, hein, la Federal Aviation Administration aux États-Unis, n'arrête pas de rendre public toutes sortes de communications radio concernant des observations d'ovnis. La dernière en lice, on est le 24 février dernier, entre 15h30 et 16h20. On se trouve à la frontière de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Et là, il y a un Jet Lear qui est en l'air. Il y a un appareil de l'American Airlines. L'appareil de la Jet Lear contacte le centre de contrôle du trafic aérien d'Albuquerque, leur demande « Est-ce que vous avez quelque chose qui vole au-dessus de moi? » Et là, on lui répond négatif. Il dit « Ça doit être un UFO. » Et ensuite, voilà, je te laisse aller avec qu'est-ce qui suit et je te remets dans le contexte après. On y va pour l'extrait audio.
A UFO. It's 37. They reported something pass over him, and we didn't have any targets. So, just let me know if you see anything pass over you.
Something just passed over us. Don't know what it was, but it's at least 2,000-3,000 feet above us. Yeah, it passed right over the top of us.
An American 1095. Can you tell if it was in motion or just hovering?
Make it out whether it was a balloon or whatnot, but it was just really either bright or.
Okay, Roger.
Donc voilà.
Écoute, je suis vraiment ça là pour moi là.
C'est stupéfiant.
C'est parce que ça donne un élément de crédibilité à toutes ces histoires là parce que là, tu sais, c'est un pilote d'avion puis tu vois bien là, c'est pas un crackpot le gars là.
Voilà.
Tu sais, il est commandant, puis tu sais Dieu sait que tu peux pas devenir commandant juste comme ça là, tu sais
Ce sont bons observateurs également.
Bon. Et là tu sens dans sa voix, tu sais qu'est-ce qui se passe.
Voilà. Là, donc on a ce contrôleur, le dernier message qu'on entend, c'est le pilote de l'Airbus, donc un appareil qui transporte des passagers. Et là, ce qu'il dit, bon, au départ, on entend le contrôleur, il dit, voilà, il y a un pilote, et là, il fait référence au Jet Lear, qui a observé quelque chose, est-ce que vous voyez quelque chose? Et là, éventuellement, le pilote d'Airbus dit, il est passé au-dessus de nous, l'appareil du Airbus vole à 37 000 pieds d'altitude, l'objet, il le situe à peu près à 3 000 pieds au-dessus de lui, il dit, je sais pas si c'est un ballon, mais en tout cas, il vole dans le sens contraire, et il reflète la lumière du soleil. Jusqu'à maintenant, on n'a pas d'explication. Il faut savoir que cette zone-là est une zone très militarisée. Il y a beaucoup d'engins qui vont, des engins secrets qui patrouillent ce secteur-là. Mais évidemment, on peut se demander si c'est un engin militaire, que faisait-il dans des corridors aériens utilisés par l'aviation civile? Pourquoi faire voler ces objets au milieu de l'après-midi? Pourquoi ces engins-là, ou à tout le moins l'armée, n'a-t-elle pas communiqué aux services ou aux contrôleurs aériens la présence d'un de leurs appareils? Ce que l'on sait par l'enquête de la Federal Aviation Administration, c'est que l'objet dont il est question ici n'avait pas de transpondeur, donc ce n'était probablement pas un avion. Il n'apparaissait pas sur les écrans radars. Cet OVNI, entre guillemets, n'a jamais communiqué avec aucune tour de contrôle locale et il se déplaçait plus ou moins à la même altitude que les avions commerciaux. Alors là, encore une fois, des pilotes qui signalent la présence d'un engin inconnu, mais pour lequel, malheureusement, au moment où on se parle, on n'a pas d'explication et ça reste très mystérieux.
Très mystérieux, très mystérieux. Mais heureusement, tu es là.
Oui, bon, je suis content d'avoir fait entendre ça parce que c'est, y a, on est à peu près unique au Québec de pouvoir communiquer ce type d'informations-là. C'est vraiment le fun.
Ben, continue à le faire, Christian Page. C'est toujours un plaisir. Merci.
Merci, Bernard.
Merci à vous, les auditeurs. On a passé une belle semaine. On a mérité notre fin de semaine. Je salue la petite équipe, mais extraordinaire équipe de Maryse Duchesneau, Alexandra Marcoux et Larry Dufresne. Il y a Paul Aude qui s'en vient avec le Québec maintenant. Je vous souhaite un beau week-end. On se reparle lundi. Ciao tout le monde.